aime retrouver votre chronique, un autre écho de l'écho. Et aujourd'hui, vous nous donnez des nouvelles des prix Nobel d'économie.
Eh oui, parce que le 13 octobre dernier, Philippe Aghion, professeur au Collège de France, s'est vu remettre le prix Nobel d'économie 2025 aux côtés de Joël Mokyr et de Peter Witt. Alors, rappelons d'abord que le prix Nobel d'économie en tant que tel n'existe pas. En effet, dans son testament, Alfred Nobel n'a jamais mentionné de prix Nobel d'économie parce qu'il déclarait, je cite, « haïr l'économie du fond du cœur ». Alfred Nobel, bien sûr, ne considérait pas les sciences économiques suffisamment objectives et solides pour être mises dans la même corbeille à prix que la physique et la chimie. Ce n'est donc pas le prix Nobel d'économie qu'ont reçu les trois acolytes, mais le prix financé par la Banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Et alors, quel est l'objet de leurs travaux?
Eh bien, la vénérable institution n'a vraiment pas fait preuve d'originalité cette année, puisque les découvertes de ces trois économistes cadrent en tout point avec la pensée dominante, en nous expliquant que, je cite, « le facteur clé de la puissance économique, c'est le leadership technologique ». Alors certes, le progrès technique crée des gains de productivité, ça c'est certain, et donc de la richesse, puisque les entreprises, pour un même temps donné, créent beaucoup plus de valeur. Mais en fait, le problème est ailleurs et il n'est pas posé par nos trois médaillés. Parce qu'en effet, rien n'est dit sur la question de ce que l'on fait de la technique et de ce que la technique fait à l'ensemble de la société. Autrement dit, nos économistes ne politisent pas la technique. Même s'ils accordent, c'est vrai, ils s'accordent sur le fait qu'elle doit être encadrée par des institutions ad hoc. Ok, mais d'ailleurs, ils ne précisent pas vraiment ce que doivent être ces institutions. Or, la technique est avant tout, Margot, une chose politique. À qui appartient-elle? Quels sont ses modes de régulation, privés, publics? Quel est son poids dans l'activité humaine? Quel en est l'équilibre entre ses apports en bonheur et ses coûts sociétaux? Et bien d'autres questions également.
Et donc, vous pensez que les concepts d'aliénation et de prolétarisation théorisée par Karl Marx semble aujourd'hui parfaitement adaptée à ce qui nous attend.
Mais oui, parce que Marx avait en effet bien analysé que pendant la révolution industrielle, la technique avait permis de remplacer le savoir-faire, dépossédant ainsi les ouvriers artisans de leur savoir-faire. Et donc, c'est cette perte de sens au travail que produit le remplacement de l'homme par la machine, façon Charlot dans les temps modernes, et non plus son prolongement par un outil, et c'est ça que Marx appelle l'aliénation. Et cette aliénation provoque alors la prolétarisation des travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs sont alors soumis aux cadences et aux contraintes d'un système qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne maîtrisent plus. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le problème d'aujourd'hui, c'est que la machine ne remplace plus seulement le savoir-faire, comme sous la révolution industrielle ou le Trente Glorieuses, mais également le savoir-penser, avec pour corollaire la dépossession de notre mémoire remplacée par de multiples supports numériques et en ligne de mire, une prolétarisation de tous, des cols blancs et des professions intellectuelles compris. Par exemple, je vous cite un exemple. Lorsque le président de la Banque centrale américaine, la Fed, avoue sans embâge qu'il ne comprend rien aux algorithmes qui régissent les marchés financiers, eh bien, au sens de Marx, on peut dire qu'il s'est prolétarisé. Et le problème tient au fait qu'aujourd'hui, ces supports de mémoire s'industrialisent à grande échelle, avec en plus un agenda économique très précis pour se substituer à nos propres capacités de décision. Dorénavant, c'est l'algorithme qui nous conseille et qui nous contrôle. Par exemple, aujourd'hui, 3 vues sur 5 cliquées sont proposées par les algorithmes. Et encore pire, si on se replonge dans la crise de 2008, c'est bien le trading à haute fréquence qui, en transmettant automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers à l'aide d'algorithmes, a en grande partie déclenché la crise financière. Les machines se sont trouvées capables alors d'intervenir en nanosecondes et elles sont devenues tellement autonomes qu'il a été impossible aux traders humains d'intervenir parce que sinon ils arrêtaient entièrement le système et il s'effondrait ce système. Les financiers se sont donc prolétarisés. Et de façon plaisanducieuse, bien sûr, parce qu'il irradie l'ensemble de nos actions, le système de mémoire industrielle remplace désormais tous nos supports de mémoire humains pour en faire une profitabilité maximum. Que ce soit Google, Amazon et autres GAFAM, ils nous emprisonnent dans une bulle, nous dépossédant petit à petit de notre libre arbitre et de notre réflexivité de notre réflexivité, pardon, hein, pour nous faire avaler un maximum de publicité dont ils tirent leur puissance. Alors bien sûr, depuis l'avènement de l'IA, on joue encore dans une autre dimension, bien évidemment. Mais cette chronique étant limitée, je dois passer. Alors certes, nos prix Nobel ont raison de soumettre la croissance au progrès technique. Et dans cette chronique, il ne s'agit d'ailleurs pas d'être pour ou contre la technique. Mais il s'agit de savoir ce que l'on en fait, à qui elle profite, de quelle façon, et d'en mesurer les risques. Parce que n'en déplaise aux optimistes invétérés, eh bien au final, n'oublions pas que c'est Cassandre qui a eu raison.